En ce 28 octobre, dimanche dit de la Réformation, les protestants du monde entier font mémoire de cette révolution spirituelle, théologique bien sûr, que fut la Réforme. Et nous aussi, ici, à Annecy, nous y prenons part, en particulier à partir de ce texte. Car Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon et les autres ont su redonner toute leur place au texte même de la Bible. Seulement l'Écriture, sola scriptura. Ce sont eux qui en ont initié une lecture renouvelée et ouverte, aujourd'hui largement partagée dans les églises chrétiennes. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, nous donnent de mieux entendre, de mieux comprendre la parole de Dieu et cette rencontre assez curieuse de Pierre et de Corneille. S'il y a une expérience que les hommes partagent largement, c'est bien celle des frontières. Expérience le plus souvent sans problème, en particulier dans l'Union européenne, l'espace Schengen, parfois dramatique, angoissante, comme cette scène stupéfiante d'un film du cinéaste grec Théo Angelopoulos. Alors je sais que peut-être certains vont sourire en disant « Tiens, il nous ramène le cinéma ». Oui, je vous propose en effet de faire un détour par le cinéma, parce que dans ce cas-là aussi, il en vaut la peine. Ce film, alors, se situe dans l'Europe de la guerre froide, à la frontière entre la Grèce et l'Albanie, l'Albanie communiste. Un officier des gardes-frontières grecs s'avance vers la ligne de démarcation entre les deux pays. Il lève le pied, comme s'il voulait l'enjamber, la franchir. Mais il s'arrête, le pas suspendu, immobile. S'il passe, il mourra. Le film s'appelle « Le pas suspendu de la cigogne ». C'est une évidence que le voyage pacifique de Pierre vers Césarée ne revêt en aucun cas un aspect dramatique. Il s'agit seulement d'une mission de bonne volonté sous le regard de Dieu. Il n'empêche. Cette séquence du chapitre 10, la conversion de Corneille, nous intrigue quelque peu, car elle est en fait inattendue. En effet, si les actes des apôtres qui ont été écrits, pense-t-on, dans les années 80, concernent bien la naissance et l'essor de la communauté de la secte judéo-chrétienne à Jérusalem, rien ne laisse prévoir cette rencontre de Césarée entre le disciple de Jésus et le centurion romain, entre le judéo-chrétien et le païen, entre l'eau et le feu. Au premier abord, l'événement nous paraît parfaitement paisible. Dieu est là, aux commandes, même s'il n'intervient pas directement, mais par des signes surnaturels et symboliques. Vision, extase, apparition d'anges. D'une part, Corneille, cet officier des troupes d'occupation, païen, craignant Dieu, riche d'une humilité authentique et d'une bonne volonté évidente. D'autre part, Pierre, le pêcheur galiléen, obéissant à l'Éternel et qui, en dépit de sa perplexité initiale, se rend à Césarée. Là, il prend la parole et, comme compagnon de Jésus, témoigne avec force. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi, juge, chez les vivants et les morts. Tout se déroule dans les côtes et l'harmonie. Voir cependant dans ce récit une histoire lisse et édifiante serait sommaire, inexact et pour tout dire, conduirait à une sorte de contresens. En effet, il s'agit de bien autre chose que d'un genre biblique pour croyants en mal d'évangélisation ou de bonnes paroles. En fait, dans ce récit d'une rencontre, nous prenons peu à peu conscience d'une réalité beaucoup plus complexe en nous et autour de nous. Réalité des barrières et des frontières de tout genre, de toutes sortes, tant psychiques, sociales que religieuses. Frontières qui nous emprisonnent. Des frontières, mais lesquelles? La première d'entre elles s'impose elle est géographique et donc humaine. Jaffa se trouve près de Tel Aviv, en Israël. Jaffa, où se trouve Pierre, et Césarée, lieu de garnison de Corneille, sont éloignés d'une 60aine de kilomètres, bien peu à nos yeux, mais plus d'un jour de marche pour Pierre et ses compagnons. C'est aussi l'occasion d'une rencontre non programmée entre des hommes aux traditions bien différentes, voire antagonistes. Rencontre donc imprévisible et au risque. Une autre frontière, plus secrète, mais réelle, existe. C'est celle qui est en chacun de nous. Elle est psychologique et nous empêche d'avancer. Pierre nous en donne un étonnant exemple. Emporté par le choix de Dieu seul, qui lui impose « Lève-toi, descends et pars », il demeure quelque peu perplexe, c'est son mot, avant d'obéir. Évidemment, il y a aussi une frontière politique dans cette Palestine du premier siècle où cohabitent les populations les plus diverses. Mais, à mon avis, à mon sens, avant tout, s'impose une frontière encore bien plus compacte, encore bien plus hermétique, celle des tabous et des interdits. Frontière qu'on ne franchit pas, car les règles qu'elle défend sont considérées comme absolues et intangibles. En fait, c'est ainsi que Pierre, en obéissant à l'Éternel, outrepasse l'un de ses interdits fondamentaux. Les membres de la secte judéo-chrétienne de Jérusalem le lui reprochent de façon assez virulente à son retour à Jérusalem. Ils lui disent « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Voilà des frontières. Quelles frontières ? Pourtant, c'est dans ce cadre précis, dans ce milieu étranger, pour Pierre de Césarée, que se produit un grand renversement, un grand chambardement. Pierre l'affirme en toute clarté. Il est interdit à un juif de se lier à un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait déclarer aucun homme souillé et impur. Plus tard, Pierre et ses amis seront stupéfaits de ce que le don de l'Esprit Saint est répandu même sur les païens. Ainsi, l'Esprit Saint nous invite à outrepasser, à dépasser les frontières, les tabous. Voilà un message clair. L'amour de Dieu concerne tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. Il nous faut alors bien prendre conscience des ondes de choc de ce grand renversement. Ondes de choc personnelles. Voilà Pierre, l'apôtre, bousculé, dépassé, stupéfait au sens fort, submergé par ce qui lui arrive. Il va dire « Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ?» Onde de choc religieuse, politique, sociétale. Voilà des communautés, des peuples qui s'ignorent, qui sans doute se méprisent. Les voilà qui acceptent un vivre ensemble, jamais imaginé. En fait, on se rend compte que ce bouleversement signifie un acte de foi, à savoir le choix de vivre dans la communauté humaine. Et aujourd'hui, quel sens pouvons-nous donner aujourd'hui à cet événement à la fois lisse et tumultueux qui s'est produit il y a 27 ans ? En d'autres termes, quelle lecture pouvons-nous en faire ? Tout d'abord un constat. La réalité, quelque peu amère, est que barrières et frontières existent toujours. Oui, le mur de Berlin est tombé, mais d'autres sont bien installés subsistent, séparent par exemple les deux Corées, séparent les États-Unis du Mexique, ils séparent Jérusalem de la Cisjordanie. Nous n'évoquerons pas non plus les murs angoissants que dressent aujourd'hui des intégrismes de tout poil, de toute direction. Nous évoquerons par contre ces sentiments profond, mêlé, que nous éprouvons parfois en présence d'étrangers. Sentiment de crainte, de méfiance, qu'est-ce qu'il vient faire là? Parfois d'hostilité. Comment ne peut-il pas me comprendre? Tout le monde n'est pas obligé de parler français, d'ailleurs. Faut-il se taire, se réfugier dans une indifférence bien confortable? Beaucoup de questions pour une réponse qui se trouve dans le texte de Luc. C'est la foi en Dieu, c'est-à-dire l'acte de se fier en Dieu, qui seul peut renverser ses murailles. La preuve, c'est que Pierre de lui-même n'envisageait absolument pas d'aller chez les païens. C'est Dieu seul qui nous donne la force et le pouvoir de rencontrer l'autre. Celui que nous ne connaissons pas, mais aussi celui que nous croyons connaître, qui est proche de nous, là, à côté de nous. Le bilan. Le bilan, c'est d'abord celui-ci, sous le regard de l'Éternel, la découverte ou la redécouverte de la fraternité humaine, au-delà des frontières, malgré les frontières. Pour finir, je voudrais vous proposer à votre attention deux événements anecdotiques qui ont un lien avec cette rencontre de Césarée. Voici le premier. Il date de 1943 et de l'occupation italienne en Savoie. C'est le pasteur Paul Chappal, qui fut pasteur ici pendant la période de la guerre et après-guerre, que certains d'entre nous ont connu, qui a confié ce souvenir personnel. Le temple qu'il y avait ici, enfin pas celui-ci, celui d'avant, était ouvert. Un jour, un soldat italien est entré, lentement, respectueux, humble. Il a déposé pistolet et cartouchière sur le banc. Il a fait silence. Il a pris. Voici le second. Il date de l'actualité, on peut dire. Monsieur Tarek Mitri, chrétien libanais orthodoxe, engagé dans le dialogue au sein du Conseil œcuménique des Églises, vient d'être nommé au titre de l'ONU pour aider à construire un état de droit et instaurer un dialogue dans la Libye déchirée du printemps arabe ou de l'automne. Tâche immense, difficile, périlleuse, merveilleuse. Pierre à Corneille, relève-toi, moi aussi je suis un homme. Corneille à Pierre, tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu. Amen.